Bonsoir à tous et soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc il fallait un titre à ce que je vais vous apporter et je l'ai trouvé. Donc le titre c'est « Une place près du fleuve de Dieu ». Voilà, donc ce que je voulais vous partager c'est une lecture dans Ézéchiel 47. Et Ézéchiel 47, c'est ce fameux passage où le fleuve s'écoule, sort du temple de Dieu. Et donc Ézéchiel est accompagné d'un homme qui veut le faire traverser ce fleuve. Et donc au final, il n'arrive pas à le traverser parce que ça devient un torrent trop fort. Et donc on connaît tous ce passage parce qu'il représente pour nous le dépassement de soi, il représente la foi et la confiance que l'on a en Dieu. Et c'est un passage vraiment très fort. Et moi je sais que Ézéchiel 47, souvent, soit je m'arrête à ce passage-là, ou alors quand je lisais la suite, j'arrivais pas à réaliser ou à comprendre ce qui était dit après. Et je retenais que ce moment-là où Ézéchiel doit traverser le fleuve. Donc on va commencer à lire Ézéchiel 47, les versets 6 et 7. Donc là, à ce moment-là, Ézéchiel se rend compte que c'est devenu un torrent trop fort. Et donc, au verset numéro 6, il dit, donc l'homme dit à Ézéchiel, « Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis, il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Donc, on voit que c'est à ce moment-là Une fois qu'Ézéchiel est au bord du torrent et que l'homme lui dit « Regarde bien, est-ce que tu as vu ?» C'est à ce moment-là qu'il remarque les arbres. Jusqu'à présent, il n'a pas parlé une seule fois des arbres. Et moi aussi, j'avais pas, bien que j'ai déjà lu plusieurs fois ce texte, j'avais jamais vraiment fait attention à ces arbres. Donc il y a une grande quantité d'arbres de chaque côté du torrent. On va continuer Ézéchiel, la suite, donc du verset 8 au verset 12. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district de l'Est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée. Et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. Elles ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Et donc, effectivement, on constate qu'il y a vraiment une grande quantité d'arbres. Et ces arbres, ce sont donc des arbres fruitiers, sont des arbres fruitiers qui donnent beaucoup de fruits. Et non seulement ils donnent du fruit, mais leurs feuilles servent de remède. Donc, il y a différentes significations de l'arbre dans la Bible. L'arbre représente la vie, il représente la force, il représente la richesse. Certains bois précieux sont utilisés pour construire le temple. Et il représente également un abri. Certains personnages bibliques se sont réfugiés sous un arbre. Mais moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé aux arbres, j'ai pensé au psaume 1, les versets 1 à 3. Donc, qui nous dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et on trouve également cette notion d'homme qui ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. On trouve également dans Jérémie 17, versets 7 et 8. Alors, je crois que je n'ai pas donné la référence. Donc, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors de l'année de la sécheresse, il ne redoute rien et ne cesse pas de porter du fruit. Et donc, c'est alors que, lorsque j'ai lu ces deux versets, je me suis rendu compte que finalement, ces arbres, tous ces arbres qui sont au bord de ce torrent, eh bien, ce sont les enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu, c'est nous qui sommes au bord de ce torrent. Et les besoins d'un arbre pour vivre, pour être fort, pour être vigoureux, pour porter du fruit, c'est qu'il soit planté dans la bonne terre, dans une bonne terre. Comme nous dit la parabole du semeur, une graine ne peut pas pousser si elle n'est pas semée dans une mauvaise terre. L'arbre a besoin également de l'eau qu'il puise grâce à ses racines. Et on voit justement dans le passage de Jérémie que je vous ai lu juste avant, que les racines s'étendent vers le cours d'eau pour pouvoir justement, pour que l'arbre puisse s'abreuver. L'arbre, il a également besoin de la lumière. Et donc cette lumière, c'est Jésus. On trouve cette notion de lumière pour Christ dans Jean 8, verset 12. Et c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit. Donc Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » On voit donc bien là que c'est la lumière de Christ qui donne la vie. Dans Éphésiens 5, 14, il y a un verset aussi qui parle de Christ qui nous éclaire. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. » Donc, on a parlé de la terre, on a parlé de l'eau, on a parlé de la lumière, et l'arbre a également besoin de l'air pour pouvoir vivre. Et j'ai pensé au passage dans Ézéchiel 37, lorsque les ossements desséchés recouvrent la vallée. Ézéchiel est dans la vallée et l'homme qui l'accompagne lui dit « Prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. » Et donc, on voit bien qu'on a besoin de la respiration du Saint-Esprit pour pouvoir vivre. Alors l'Esprit est entré en eux, ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous connaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Nous constatons donc là que nous devons sortir de nos tombeaux et reprendre vie grâce au souffle du Saint-Esprit et à la lumière de Christ. Notre responsabilité pour que nous puissions porter du fruit, pour que notre feuillage ne se flétrisse pas et pour qu'il puisse porter du fruit, c'est de veiller à ce que nos racines pousse dans la bonne terre en direction du fleuve et que nos vies soient exposées à la lumière de Christ et que l'air que nous respirons provienne du Saint-Esprit. J'ai ensuite repris ma lecture d'Ézéchiel et j'ai constaté autre chose. Après les arbres, j'ai constaté que donc cette partie du torrent donc qui coule depuis le temple de Dieu et qui se jette dans la mer morte, il coule vers l'est pour se jeter dans la mer morte. Et la mer morte est alors assainie. On peut relire le passage. Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Donc il y aura une profusion de vie. La mer morte est pourtant un lieu qui est connu pour son manque de vie en fait. Il y a un taux de sel minéraux qui est tellement important qu'à l'intérieur de la mer morte, c'est connu de tous, il n'y a aucun être vivant qui peut y vivre, il n'y a aucune plante qui peut vivre. Et donc, en cherchant des informations sur la mer morte, j'ai regardé des photos. Alors donc effectivement, on constate qu'on voit aucune trace dans l'eau d'être vivant. Il y a des oasis autour de la mer morte, mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. Et donc j'ai lu un petit article et une personne qui donnait des conseils pour se baigner dans la mer morte. Et donc elle disait qu'on peut se baigner dans la mer morte, mais qu'il faut faire attention à ne pas mettre la tête sous l'eau. Il ne faut surtout pas que les yeux soient en contact avec l'eau de la mer morte, et il ne faut pas la boire. Et lorsqu'on sort de l'eau, il faut se rincer très longtemps pour pouvoir vraiment se laver de toute trace, et il faut boire énormément. Mais là, on voit dans ce passage que le fleuve qui coule du temple de Dieu, eh bien, il assainit, il a ce pouvoir d'assainir et d'apporter la vie dans la mer morte. Et il y aura tellement de poissons que toutes espèces, que des pêcheurs se tiendront sur ses rives. Voilà. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de Méditerranée. Et il y en aura en grande quantité. Et donc, là, c'est les pêcheurs. À ce moment-là, quand on relit, on voit qu'il y aura même des pêcheurs. Et j'ai pensé, ça m'a rappelé, lorsque j'ai lu ce passage qui parle des pêcheurs, ça m'a rappelé un petit refrain, un petit couplet qui est venu très loin dans ma mémoire, où je crois qu'il y avait une comédie musicale dans les années 80 qui s'appelait Pêcheurs d'hommes ou quelque chose comme ça. Et donc, bon, ça m'a fait penser au texte dans la Bible, et c'est Jésus qui utilise cette notion-là de pêcheur d'hommes. Il l'utilise à deux fois, et donc la première fois, c'est dans Matthieu 4, versets 18 et 19. C'est donc au début de son ministère. Et donc, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Cette notion de pêcheur d'hommes est également reprise par Jésus dans Luc, versets 4 à 11. Chapitre 5, pardon, Luc, chapitre 5, versets 4 à 11. Donc le contexte de ce passage, je crois que je l'avais donné. Donc le contexte de ce passage, Jésus est au bord d'un lac et la foule se presse autour de lui pour l'entendre parler. Et donc pour prendre un petit peu de recul, il voit une barque et donc il monte sur la barque et il demande à Simon de pouvoir un petit peu s'éloigner du rivage pour pouvoir enseigner la foule. Donc on va le lire, Luc. Je vais y arriver, voilà. Voilà. Verset 5, pardon, je m'étais trompée de... Voilà. Quand il eut fini de parler, quand il a fini d'enseigner la foule, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Et ils leur firent signe de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. » Là, c'est l'autre pêcheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il venait de faire. Il en allait de même pour Jacques, Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, certains d'entre nous ont reçu cet appel d'être des pêcheurs d'hommes. Et peut-être vous qui avez reçu cet appel, vous êtes effrayés ou vous vous languissez parce que peut-être que vous avez lancé vos filets Peut-être que vous êtes attristé parce que vous avez l'impression d'avoir lancé vos filets en vain, comme on a pu voir des disciples. Mais au temps voulu, selon Ézéchiel 47, les poissons vont arriver en grand nombre. Il y aura une grande quantité de poissons de diverses espèces. Et ce sera là, à ce moment-là, au temps voulu, au temps de Dieu, que vous devrez lancer vos filets. Tout comme Simon qui a obéi à Christ et qui a jeté les filets à sa parole. Donc il y aura peut-être des personnes, vous serez peut-être justement étonnés par les personnes que vous toucherez à ce moment-là. Il y a peut-être des personnes à qui vous avez témoigné en vain et qui seront touchées au moment voulu parce que vous aurez jeté votre filet au bon moment. C'est peut-être une copine de classe qui s'est moquée de vous lorsque vous lui avez parlé de Jésus. C'est peut-être un collègue de travail ou un voisin qui vous regarde de travers parce qu'il sait que vous êtes chrétien. Vous serez sûrement surpris du miracle que Dieu va faire au travers de vos vies lorsque vous aurez jeté le filet dans le bon moment. Donc on continue dans Ézéchiel 47. Et ensuite, donc cela parle des marais et des étangs. Donc je vais reprendre. Alors attendez, il faut que je retrouve. Ces marais et ces étangs, donc c'est le verset 11. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Donc les marais et les étangs sont des étendues d'eau qui sont stagnantes. On peut les trouver près des cours d'eau ou près de la mer. Et donc, moi, j'ai lu quelque part, je cherchais, je me disais, comment est-ce qu'on peut assainir un marais? Parce que souvent, les marais, ça a une image un peu sombre. On imagine une eau stagnante qui sent mauvais, qui c'est plein d'insectes ou des choses comme ça. Et donc, j'ai lu que par le passé, on assainissait énormément les marais. Parce qu'il y avait des maladies qui étaient transmises avec les insectes qu'il y avait dedans. Et donc, on les asséchait, ces marais, et pour pouvoir les assainir. Et donc, ensuite, on en faisait des terres agricoles. Mais là, nous, dans notre passage, il n'est pas asséché, mais il est censé être assaini par l'eau du fleuve de Dieu. Mais le texte dit que les marais, les étangs ne seront pas assainis. Ça veut donc dire que l'eau ne va pas couler dans ces marais, ces étangs. Malgré tout, Dieu veut utiliser ces eaux stagnantes et il veut les utiliser afin d'en exploiter le sel. Donc le sel, le symbole du sel dans la Bible, il y en a également plusieurs. Donc dans la Bible, on parle du sel de l'Alliance. Le sel peut être était parfois utilisé dans l'Ancien Testament pour exprimer l'alliance perpétuelle avec Dieu, parce que les offrandes étaient salées. Ça faisait partie des offrandes à Dieu. Mais le sel, ça peut être aussi un symbole de stérilité ou de malédiction. On pense à la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel. Mais pour moi, je pense que si Dieu veut exploiter le sel de ses marais, c'est parce qu'il nous voit, comme on peut le lire dans Matthieu 5, 13, comme le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé dehors. Donc nous sommes donc le sel de la terre et nous devons donc veiller par nos œuvres, nos actions et nos paroles à faire connaître Christ. Donc pour en revenir au titre que je vous ai donné au début, une place près du fleuve de Dieu, Certains d'entre nous seront ces arbres plantés près d'un courant d'eau, d'autres seront des pêcheurs d'hommes, d'autres seront le sel de la terre. Mais nous aurons tous une utilité. Donc pour conclure, pour terminer, je voudrais prendre Apocalypse 22, versets 1 et 2. Donc c'est le tout dernier chapitre de la Bible. Et donc ces deux versets nous disent « Puis il me montra le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne du fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. » Donc ce qui nous est annoncé dans Ézéchiel 47, c'est le prémisse de ce qui nous attend dans le royaume de Dieu. Nous en faisons partie, nous avons notre place, nous faisons partie du plan de Dieu. Chacun d'entre nous, à notre échelle, nous avons tous notre utilité. Nous faisons partie du plan de Dieu. Voilà. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu n'oublies aucun de tes enfants, parce que tu as une place pour chacun de nous dans ton royaume. Je te demande vraiment, Seigneur, de nous aider quotidiennement à veiller sur notre nourriture, sur ce que nous buvons. Donne-nous chaque jour plus de soif de toi, Seigneur. Plus de soif de toi, Seigneur. Plus de faim de toi, Seigneur, afin de pouvoir te servir, Seigneur, et afin de pouvoir porter du fruit comme tu veux que nous le fassions, Seigneur. Tu nous donnes cette capacité au travers de la nourriture que tu nous donnes, au travers de la lumière de Christ, au travers du souffle du Saint-Esprit. Sois élevé et béni, Seigneur.